La sainteté au quotidien, vivre le désert, vivre le carême, avec la parole de Dieu. Et rappelez-vous, amis auditeurs, nous avons donc préparé nos différentes rencontres avec le thème du désert, en regardant même dans la Bible, qu'est-ce que bibliquement le désert, que représente-t-il, ce lieu aussi privilégié où Dieu vient parler à notre cœur, à condition bien sûr que nous lui ouvrions notre cœur, parce que sinon, eh bien c'est vraiment le désert de la mort, c'est vraiment la grande désolation. Nous avons vu que dans ce désert, il y a des bêtes sauvages, et il y a le tentateur, le diable, qui vient pour couper notre relation avec Dieu. Pour, comme au jardin d'Éden, nous redire que Dieu ne nous aime pas. Et je vous avais dit que notre marche de carême, eh bien, on va la faire en scrutant, en méditant, en exploitant, entre guillemets, les 10 paroles, les 10 commandements, cette loi d'amour qui est donnée par Dieu à son peuple. Je vous avais dit également que je puiserais mes sources, notamment dans la tradition de l'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique tout d'abord, également avec des petits commentaires rabbiniques, notamment c'est le rabbin Marc-Alain Wachnin que je citerai. Et puis également, alors là vous allez peut-être sourire, mais un artiste italien, comédien italien, Roberto Benigni, que on connaît bien, surtout pour le chef-d'œuvre La vie est belle, mais Roberto Benigni qui aussi est croyant, et qui fait partager sa foi aussi à travers son art, et qui a donc proposé une lecture très très belle des 10 commandements. Donc je le citerai également dans nos différentes rencontres. Comment saisir l'insaisissable ? Les 10 commandements, on les resitue dans le livre de l'Exode. Vous savez que les 10 commandements... L'exode, ça veut dire, le mot exode veut dire sortie, donc c'est la sortie, ça rappelle la sortie des Hébreux d'Égypte. C'était donc en 1250 avant Jésus-Christ. Voilà que pendant 400 ans, Israël, à la suite des tribus d'Israël, donc de Jacob, des tribus de Jacob qui descendent en Égypte chez leur frère Joseph et qui s'y établissent, qui vont au début connaître prospérité, puis cette prospérité, il y a un midrash qui raconte que pourquoi, par exemple, Dieu parle à Moïse dans le buisson ardent. Pourquoi un buisson ? Un buisson, c'est aride, c'est sec, c'est plein de ronces, surtout les buissons du désert. Alors, ce midrash s'étonne. Pourquoi Dieu choisit un buisson pour parler ? Alors, pour deux raisons. D'abord, pour nous dire que aucun espace, aucun lieu n'est vide de la présence de Dieu. Même la chose la plus insignifiante, ce buisson, ce buisson sec, donc mort, plein de ronces. Pour nous dire que Dieu est présent dans toutes les situations, même épineuses, entre guillemets, de notre vie. Rien n'est absent, aucun espace n'est vide de la présence de Dieu. Ça, c'est le premier point. Et puis, aussi parce que Israël, quand Israël entre en Égypte, à la suite de Joseph, donc vous vous rappelez l'histoire, Joseph qui est vendu par ses frères, et qui, comme toujours, Dieu tire d'un mal un bien, après avoir même été emprisonné et passé donc un certain temps dans les geôles de l'Égypte, voilà, il a été donc récupéré par une caravane, vendu comme esclave, accusé à tort, donc injustement par le maître qui l'employait, par la femme du maître qui l'employait. Il se retrouve donc en prison pendant de longues années, mais là il a un charisme qui est celui d'interpréter les songes, qui va lui sauver la vie, puisqu'il va ensuite aider Pharaon à comprendre ce qui va arriver, c'est-à-dire les grandes sécheresses, et à donner aussi donc la possibilité, grâce au Nil, d'engranger du blé pour les années à venir et même pour vendre pour les pays voisins. Donc Joseph d'esclave et de prisonnier va devenir premier vizir, premier ministre, on peut dire, de l'Égypte. Et bien sûr, il a toujours cette rancœur dans le cœur. La vente de Paki par jalousie, ses frères l'avaient vendu, s'étaient débarrassés de lui. Mais voilà que cette famine qui sévit dans tout le pays, dans tout le Moyen-Orient, oblige les tribus d'Israël qui sont en Palestine à descendre en Égypte, demander de la nourriture, demander du blé. Et là, ça sera la rencontre des frères, des fils de Jacob avec Joseph, qui au début, entre guillemets, voudrait se venger, mais qui finalement va tomber dans les bras de ses frères, va les embrasser, va leur pardonner. C'est magnifique d'ailleurs ce passage, et va les établir en Égypte, qui est un pays bien sûr où il y a donc le Nil, donc on est assuré d'avoir un minimum, entre guillemets, un minimum vital. Voilà. Donc ils vont s'installer, comme Joseph est ministre d'Égypte, bon, ils seront très bien reçus, et puis ils vont multiplier, et vont se développer de plus en plus, devenir de plus en plus nombreux. Et quand le pharaon ami de Joseph meurt, c'est la fin pour le peuple des Hébreux. Ils deviennent donc esclaves, comme tous les autres peuples qui sont en Égypte, et aident à construire les pyramides. Ils seront pendant 400 ans maltraités, esclaves en Égypte. Mais Dieu se souvient de son peuple et va les sortir de l'Égypte. Et là, donc, ce qui est beau, c'est justement que cette histoire, quand Dieu les sort de l'Égypte pour les conduire en terre promise, Dieu ne le fait pas seulement avec les Hébreux, mais il le fait avec toute l'humanité. C'est toute l'humanité qu'il fait sortir de l'esclavage. Quand les Hébreux marchent dans le désert, ils marchent dans le désert de l'histoire, parce qu'avant il n'y avait rien. On peut dire, comme le dit très sympathiquement Roberto Benigni, nous sommes sortis de là, c'est vrai. Chaque pas, c'est un pas vers l'histoire, et cette histoire, elle arrive jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu nous guide et il entre dans l'histoire personnellement, il entre dans notre histoire. Et Dieu, dans cette histoire, va leur faire un cadeau, et c'est les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'est vraiment un cadeau, c'est 10 paroles qui est un pacte, que Dieu, une alliance que Dieu fait avec son peuple. Il leur dit, si vous acceptez le cadeau, si vous faites ce que je vous dis, si vous gardez ces règles d'or, eh bien vous serez heureux et mon amour sera sur vous et mon amour sera pour vous à jamais. Alors c'est pour cela que nous allons voir dans cet épisode, dans cette marche du désert, parce que très souvent l'occulte, on parle beaucoup des tentations, de ces 40 ans dans le désert, de la parole de Dieu, mais justement, l'arme que va utiliser Jésus pour combattre le démon lorsqu'il sera tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, ce sera la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu, elle est inscrite déjà d'une manière, on a une loi naturelle dans le cœur parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous avons cette semence en nous. Donc il y a cette loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de chaque homme, dans l'esprit de chaque homme, mais ces 10 paroles, c'est vraiment des bâtons de salut qui sont donnés à l'homme, qui sont donnés donc au peuple d'Israël, qui devient un peuple. D'ailleurs, quand Israël fête la sortie d'Égypte, quand le peuple d'Israël, aujourd'hui encore, quand les Juifs célèbrent la Pâque, ils célèbrent en quelque sorte aussi la constitution d'un peuple. Ces hommes, ces tribus un peu sauvages, parce que hébreu, ça veut dire d'ailleurs émigré, donc ces émigrés un peu pêle-mêle, un peu disséminés, eh bien voici qu'ils constituent un peuple, qu'ils ont une loi, qu'ils ont un Dieu. Et c'est magnifique et c'est merveilleux. Alors, je vous l'ai déjà dit et je le reprends, donc on arrive donc à ces 10 paroles. Je dis 10 paroles parce que nous, on dit souvent dans notre pensée occidentale et dans notre traduction, nous disons les 10 commandements. Or, lorsqu'on entend commandement, tout de suite dans notre esprit résonne ordre donné et reçu, interdit, loi, morale. Donc, on entend obéissance, désobéissance. Autrement dit, on peut dire quelque chose un peu d'insupportable. Parce que bon, on le sait aussi, la morale a mauvaise presse. Et le mot commandement est réservé, dirons-nous, beaucoup plus à l'ordre, à la pensée militaire, à l'ordre militaire, quand on donne un ordre, non ? Au niveau de l'armée. Donc, de cette, de cette résonance-là, il y a très peu de choses qui concernent ce que sont réellement les 10 commandements, les 10 paroles. Parce que dans la Bible, les 10 paroles vont nous parler de la vie, du bonheur d'être vivant. Les commandements sont comme le sel de la vie, c'est-à-dire comme ceux qui lui donnent une saveur. Ils ne sont pas, si vous voulez, et c'est, bon, nous on a traduit commandement, donc c'est difficile de le conceptualiser, mais ils ne sont pas de l'ordre en soi, de l'ordre de l'avoir, c'est-à-dire une morale, ni même du devoir, faire le bien, ni encore moins, a fortiori, des interdits à respecter. Alors, mais de l'être, il s'agit de l'être et de la parole. Être plus, être meilleur dans le sens plus rapproché à Dieu, beaucoup plus à l'image et ressemblance de Dieu, ou être beaucoup plus humain, parler à autrui pour qu'il vive. Et pour que lui me donne la vie en retour, que lui aussi m'offre le monde par sa parole. Voilà ce dont traitent les commandements, ce que nous appelons les 10 commandements. Il ne parle pas tant du bien à faire que finalement de la bonté à vivre. Vous voyez, on sort de cette impression de précepte qu'il faut absolument accomplir à la force du poignet. Non, c'est une bonté qui existe et qui est à vivre, qui est dans le cœur de chaque homme. Il faut juste la mettre en ordre. C'est ce à quoi correspondent les commandements. Aime ton autre. Voilà la leçon des commandements. Alors cette phrase-là, je l'ai prise chez le rabbin Mark Anna Wagnin, que je trouve extraordinaire. Voilà, ces 10 commandements pourraient les traduire par « aime ton autre ». Alors il va y avoir l'autre avec un grand A qui est Dieu, et l'autre qui est aussi notre prochain, l'autre unique, l'autre séparé. Mais l'écart est essentiel. La différence, elle est aussi importante que la proximité. Parce que le prochain est celui que je ne peux pas englober, si vous voulez, dans le bien que je lui fais. Je ne peux pas le manger, le soumettre, le posséder. Il est celui qui est maintenu à la bonne distance, donc dans le juste, on peut dire, dans le juste intervalle. Les commandements concernent donc la vie avec autrui. Non pas comme une morale à accomplir à force du poignet. Il y a dans ces 10 commandements un chemin qui nous est proposé, mais que nous recevons, donc aussi un esprit qui nous est donné pour les vivre. Et cet esprit nous sera complètement donné par Jésus-Christ qui, lui, accomplira dans sa chair, dans son être, accomplira parfaitement le schéma Israël, c'est-à-dire ses commandements, aimer Dieu et son prochain de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son pouvoir. Alors, amis auditeurs, avant de voir même dans notre prochaine émission le premier commandement, on revient sur l'ensemble, sur les 10 paroles. Ces 10 paroles, le texte biblique parle des tables du témoignage, il parle aussi des tables de l'Alliance, et ces 10 commandements qui sont donc écrits sur des tables de pierre. Il n'y a pas donc le mot commandement, comme je vous le disais en hébreu, on dira aussi bien au pluriel qu'au singulier les 10 paroles. Et elles se présentent sur 2 tables. Avant de nous quitter, je vous lirai d'ailleurs ces 10 commandements que nous essaierons eh bien d'apprendre aussi, de retenir dans notre cœur. Avant toute chose, il faut savoir que en hébreu, et on va trouver donc ces paroles sont écrites en hébreu, il n'y a pas de verbe être au présent. Donc ce n'est pas sans incidence sur la perception de cette déclaration. On peut dire que ces 10 commandements, ces 10 paroles, c'est une déclaration d'amour de Dieu. Donc pour cela, pour nous, nous essaierons justement de lire avec le langage biblique, la pensée biblique, et vous allez voir que pour nous, ce sera une invitation, ce sera une ouverture finalement de chemins inattendus, d'une richesse étonnante et aussi d'une nouveauté imprévue. Nous, bien sûr, on ne peut pas négliger l'approche historique ou existentielle, l'approche historique, mais nous, comme je vous disais, nous aussi nous centrerons sur cette parole, cette déclaration qui est existentielle. Bien sûr, on pourrait tenter une approche de lecture, de méthode de lecture de textes qui serait structurale, donc ou littéraire, ou même psychologique, ou anthropologique, ou même politique. Mais pour nous, c'est évident que l'approche historique est importante, c'est-à-dire que cette déclaration, elle se fait dans un contexte historique qu'on ne peut pas oublier ni négliger, qui a toute sa résonance, qui est donc la sortie d'Égypte. Et puis, il y a cette orientation existentielle qui est celle, en fait, qui nous touche le plus. Et pour cela, je voudrais vous lire un Midrash, un texte célèbre du Midrash qui commente le verset 15 du chapitre 29 du Deutéronome et qui dit « Ce n'est pas avec vous seul que je conclue cette alliance ainsi que cette adjuration, mais encore avec quiconque se trouve ici présent aujourd'hui avec vous en présence de Dieu et avec quiconque ne se trouve pas ici aujourd'hui avec vous. Tous ceux qui vont naître dans le futur jusqu'à la fin de toutes les générations étaient présents avec eux au mont Sinaï. » C'est ce que nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc c'est magnifique. Tous ceux qui vont naître dans le futur jusqu'à la fin de toutes les générations étaient présents. Nous étions présents au mont Sinaï, on peut dire. Donc la compréhension même de cette lecture des 10 paroles, elle doit provoquer en nous une attitude créatrice. Et on va voir ce que ça veut dire. Parce qu'il ne s'agit pas en fait de mieux comprendre, mais de comprendre autrement. Parce que bon, lorsqu'on comprend un texte, c'est d'emblée se l'appliquer à soi-même. Mais là, il ne s'agit pas de répéter ou même de paraphraser le texte du départ, mais littéralement de décoller, d'aller au-delà du verset, de passer du texte à son propre texte. Ça, c'est la lecture créatrice, c'est-à-dire nous allons recevoir cette parole qui va nous donner l'essence même de ce qu'elle veut dire et qui va aussi, bien évidemment, nous mettre en avant parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agir dans la pensée biblique. Dans la pensée biblique, le mot « dire », Dieu dit « tu ne tueras point » ou Dieu dit « tu adoreras un seul Dieu », eh bien, dire pour dans la pensée biblique, c'est agir, c'est-à-dire c'est un acte. Lorsque Dieu dit, il fait, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu dit que la lumière soit et la lumière est, à ce moment-là, la lumière fut. Donc ça, c'est très important c'est extraordinaire. Et pour nous, vous allez voir même cette réception de ces paroles, ce n'est pas pour mieux les comprendre, mais c'est comprendre surtout ces paroles pour se l'appliquer à soi-même. Ce n'est pas nous qui allons comprendre la parole, mais c'est comprendre la parole pour nous l'appliquer à nous-mêmes. Pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, ce qui constitue la Bible, l'essence même de la Bible, pour les Juifs, la Torah, les 5 premiers livres, eh bien, se présente surtout comme un code éthique, une orientation. Dieu ne se présente pas finalement comme le créateur du ciel et de la terre simplement, mais il se présente surtout comme le libérateur de la maison d'esclavage. Et d'ailleurs, c'est la première phrase, c'est ça, c'est « je t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». C'est l'introduction au premier commandement. Avant d'entendre « écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme ». Aimer donc pour la Torah, je dirais, dans la pensée biblique, pour le peuple d'Israël, aimer, ce n'est pas un commandement, mais c'est une action. Schéma, déjà, rien que le mot schéma, ça veut dire écouter, Mais c'est la même racine qui donnera le mot gardien, garder. Donc ça veut dire déjà une attitude qui n'est pas passive. On n'écoute pas d'une manière passive. On garde, on pratique. Donc aimer pour le peuple d'Israël, ce n'est pas un commandement, mais c'est une action. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le Lévitique, qui est un commandement sans limite. Si vous réfléchissez, tu aimeras le prochain comme toi-même, c'est sans limite. C'est une invitation vraiment à aimer non seulement son égal, mais l'étranger, l'esclave, l'ennemi. Et ce respect de dignité, cette notion de respect plus exactement, et de dignité de la personne humaine, elle est vraiment incluse dans cet appel et elle rend nécessaire finalement des institutions sociales qui vont assurer la justice. Jésus, lui, a accompli parfaitement cette parole. Alors, ce code éthique, que sont les 10 paroles, les 10 commandements, cette loi d'amour, ce « je t'aime hein, » et cette invitation à aimer, cette clé, finalement, du cœur que nous livre Dieu, c'est aussi la base de notre code juridique, notre code pénal aujourd'hui. Avec malheureusement quelques déviances aujourd'hui qui font que nous sommes un petit peu perdus. Donc aimer, et je vais terminer là-dessus, aimer pour la Torah, ce n'est pas un sentiment, c'est donc une action, c'est très important. Aimer le prochain, bien sûr, ça veut dire tout d'abord ne pas le haïr ou ne pas convoiter ce qui lui appartient, mais c'est aussi garantir sa vie, en prendre soin, garantir sa vie, son intégrité physique et morale. C'est donc aussi s'abstenir, évidemment, de le tuer, mais aussi de le blesser par des coups ou même par des paroles. Nous savons que parfois les paroles peuvent être meurtrières. On le dit souvent, hein, tu m'as tué, ta parole m'a tué, hein, tu m'as achevé. Donc il faut éviter, c'est aussi, donc cet amour entraîne forcément cette attitude à ne pas le blesser ni par des coups, ni par des paroles, ni même de lui mentir, ou même ou encore plus de le tromper. C'est donc le secourir, le soigner, l'aider à se relever, lui donner des moyens de subsistance honnête. Aimer l'étranger, c'est le traiter sur un pied d'égalité. Aimer le pauvre, la veuve, l'orphelin, c'est leur restituer le vêtement pris sur gage, donc ce qu'ils faisaient à l'époque, soulager leur misère, leur donner ce qui est nécessaire pour vivre. Aimer l'esclave, c'est le traiter avec bonté. Aimer l'ennemi, c'est lui ramener son bœuf ou son âne lorsqu'ils se sont égarés. En quelque sorte, vous voyez, même quand on dit aimer l'esclave, il y aura d'ailleurs une parole très forte de Saint-Pierre qui dira « Vous, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. » Donc, vous voyez, c'est pas comme s'il y a une... Bien sûr, il y a une libération de l'esclavage en soi, mais cet amour va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination, entendons-nous bien, ni de hiérarchie au niveau social. Tout homme a droit au même respect, dans la même dignité, selon peu importe ses fonctions, peu importe son origine. Ça, c'est magnifique, vous voyez. Et ça, c'est dans les 10 commandements, c'est dans les 10 paroles, c'est dans la Bible. Alors, c'est magnifique. Avoir ce souci, vous voyez, aimer, pourquoi on dit que aimer c'est un acte? Parce qu'il entraîne obligatoirement, donc de notre part, une aide, un soutien que nous devons porter concrètement à l'autre. Bon, après on va revenir sur la notion de justice et de bonté. Et puis, je voulais vous raconter un autre petit midrash. Bon, ce sera pour la prochaine fois parce que le temps se fait court. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous invite véritablement à méditer la parole de Dieu en ces jours, plus que jamais. Et à revenir, pourquoi pas, également sur les 10 paroles, sur les 10 commandements. Et si vous avez des questions aussi, eh bien, de nous les envoyer par écrit à Radio Salve Regina, à Couvent-Saint-Antoine, 2200 Bastia. Et vous marquez les 10 paroles, les 10 commandements. Ou alors, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est nous laisser un message sur la boîte mail, tout attaché, Radio Salve Regina, @wanadoo.fr. Voilà, wanadoo.fr, Radio Salve Regina, tout attaché. Et donc, on profitera donc de ces petites émissions, de ce cheminement de carême vers Pâques, pour aimer autrement, pour apprendre à aimer autrement à travers ces 10 paroles.